Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Lisons dans l'Écriture la parole de notre Dieu au prophète Joël, les 4 premiers versets de ce livre de l'Ancien Testament. Joël, chapitre 1, verset 1, parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoutez ceci, vous les anciens, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Cela s'est-il passé de votre temps ou même du temps de vos pères? Racontez-le à vos fils, et que vos fils le racontent à leurs fils et leurs fils à la génération suivante. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Passons au chapitre 2 de Joël et nous lisons les versets 12 à 17. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie. Réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Et maintenant, chapitre 3, ou fin du chapitre 2, donc chapitre 3, les versets 1 à 5, ou chapitre 2, 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Voilà pour le prophète Joël, et maintenant dans le Nouveau Testament, deux textes qui se réfèrent à Joël, qui en montrent le sens ultime. Et nous lisons donc dans Actes, chapitre 2, les versets 14 à 21. C'est le jour de la fête de Pentecôte, quand Dieu a donné son esprit, et Pierre explique ce qui c'est passé, l'apôtre Pierre. Acte 2, verset 14. « Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et puis, dans le livre suivant, les Romains, nous lisons chapitre 10, les versets 10 à 13. Car, en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pour les lectures d'aujourd'hui.
Depuis des siècles, Dieu a annoncé que l'Esprit Saint serait répandu. Et c'est ce qui nous donne l'assurance, qui nous encourage à ouvrir la parole de Dieu en étant certain que ce guide divin va pouvoir nous guider ce matin. Nous avons commencé une série sur les 12 prophètes et lors de l'introduction, nous avons parlé du jour de l'Éternel. Alors comme nous en avons parlé lors de l'introduction, je ne vais pas en parler de manière extensive aujourd'hui, bien que c'est vrai, Joël en parle beaucoup. Mais nous verrons pourquoi et quels sont les liens que Joël fait. Nous ne arrêterons pas donc sur tous les détails du jour de l'Éternel. Alors j'aimerais quand même nous faire un peu revenir au souvenir quelques éléments, particulièrement trois éléments de base. Quels sont les trois termes à ne pas oublier lorsque nous parlons du jour de l'Éternel? Vous souvenez-vous? On l'avait vu une fois, on l'a déjà répété une fois, et puis comme moi et vous, nous avons besoin de répétition pour nous en souvenir. Les trois mots sont « jugement », « libération » et « application ». Jugement des méchants, libération du peuple de Dieu et application de la loi de Dieu. Voilà ce que représente le jour de l'Éternel. Hein, quand vous pensez au jour de l'Éternel, pensez à Juge Libap. Ça va? Juge Libap, c'est drôle, hein? Mais ça nous aide peut-être à nous en souvenir. Juge Libap, c'est simplement les premières parties là des mots. Hein, jugement, libération, application. Juge Libap. Hein? Donc, jour de l'Éternel, Juge Libap. Comme ça, on se souvient de ces trois éléments. Parce que trop souvent, eh bien, on pense qu'au premier. Jour de l'Éternel, jugement. C'est vrai. Et ce n'est pas seulement le jugement. C'est aussi la délivrance, la libération du peuple de Dieu. C'est aussi l'application de la loi de Dieu, quelque part la restauration que Dieu va accomplir. Voilà donc, jour de l'Éternel, Juge Libab, c'est bon, on l'a avec nous. On va donc, on l'a dans notre cœur pour la suite. La dernière fois, nous avons parlé du prophète Abdias. Abdias. Alors quand je vous dis Abdias, ça vous fait penser à quoi? Alors j'espère maintenant qu'on commence à avoir des liens. Alors, de nouveau, on doit un petit peu se rappeler. Eh bien, le prophète Abdias, avec le jugement des Édomites, voilà le lien avec Abdias très fort, nous indique que Dieu va certainement exercer le jugement pour ceux qui ne se détournent pas du mal et restaurer son peuple. Ça, c'est le message d'Abdias. Par le jugement des Édomites dont il nous parle dans ce livre, il nous dit en fait que Dieu va certainement, c'est certain, juger ceux qui ne se détournent pas du mal, et il va restaurer son peuple. Voilà, donc ça c'était Abdias. Donc quand on parle d'Abdias, ben voilà un élément qu'on peut retenir. Et aujourd'hui, nous allons parler du prophète Joël. Prophète Joël, Alors, je vous encourage à le relire encore et à le lire aussi avant hein, les prédications. La prochaine fois, ça sera Jonas. Donc, vous pouvez déjà le lire à l'avance aussi. Le prophète Joël a parlé au nom de l'Éternel suite à une catastrophe naturelle. Des millions de sauterelles ont tout détruit sur leur passage. Comme cela s'est passé au mois de juin de cette année, en Sardaigne, des milliers d'hectares ont été complètement mangés par des sauterelles, cette année. Le livre de Joël, avec ses sauterelles, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe naturelle. En fait, le livre de Joël, avec ses sauterelles, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe naturelle. C'est le titre de cette prédication, hein. Joël, réaction face aux catastrophes. Alors, je donne un petit peu le plan quand même de ce livre, qu'on ait un peu en tête comment il l'a écrit. Hein. Il est écrit en trois parties, en fait, ce livre. La première partie, en fait, parle de la catastrophe naturelle elle-même, de l'invasion des sauterelles et de ses conséquences. Voilà ce que Joël nous amène. Hein. On a lu dans la... Le premier chapitre, je vous invite toujours à vos Bibles ouvertes dans Joël, hein, que ça on peut faire référence. Vous voyez ça au verset 4 très clairement, mais c'est développé ensuite dans tout le chapitre premier. Et en même temps, dans ce chapitre, nous voyons qu'il exhorte à la repentance. Il dit, il y a une catastrophe, donc cela doit nous pousser à la repentance. Et il termine par une prière. C'est le verset 19 et 20, pour regarder avec moi, où il dit, « C'est vers toi, Éternel, que je crie. » Car le feu a dévoré les pâturages du désert, et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs soupirent aussi vers toi, car les courants d'eau sont à sec, et le feu a dévoré les pâturages du désert. C'est la première partie qui parle des catastrophes naturelles. On voit même ici, avec cette prière, qu'il y a aussi une notion d'incendie. Deuxième partie, catastrophe naturelle, ça fait penser à quoi? Au jour de l'Éternel. Ça, c'est la logique de Joël. Jour de l'Éternel. Et il va parler en fait de ce jour de l'Éternel parce qu'il voit dans chaque catastrophe un prototype de ce jour de l'Éternel, comme on en a parlé la dernière fois quand nous avons parlé du jour de l'Éternel. Et que fait-il lorsqu'il parle du jour de l'Éternel? Il parle à nouveau de la repentance. C'est le texte que nous avons lu avant dans Joël 2, à partir du chapitre 12. Il termine de nouveau par une prière, verset 17, deuxième partie, qui dit « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Première partie, donc, des catastrophes naturelles. Oh, ça fait penser au jour de l'Éternel. Hein? Les deux fois, on appelle à la repentance, termine par la prière. Et la troisième partie, eh bien, c'est Dieu qui, en fait, répond à son peuple repentant et qui envoie l'Esprit avec un verset phare, ou je dirais le verset phare de ce livre, qui est repris deux fois dans le Nouveau Testament, peut-être l'avez-vous déjà remarqué, quand il dit dans Joël 3.5 ou 2.32, selon les numérotations, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. » C'est une pépite d'or ici au milieu, on va en parler. Et il termine par le jugement des nations et la restauration de son peuple. C'est la troisième partie. Voilà le mouvement hein, dans le livre de Joël. Et nous allons nous centrer ce matin sur trois points que nous pouvons ressortir de ce livre. Hein. La première chose, c'est le déclencheur de la prophétie, qui devrait être le déclencheur de nos réflexions lorsque nous sommes face à une catastrophe naturelle, ou une catastrophe même créée par l'homme. Deuxièmement, nous parlerons de la réaction face aux catastrophes. Et troisièmement, de la restauration. Voilà, ça va ? Voyons, on voit un petit peu, hein. Donc, la première chose, le déclencheur de la prophétie doit déclencher notre réflexion. En fait, toutes les catastrophes naturelles devraient nous faire réfléchir. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et que rien n'arrive en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi ça doit nous faire réfléchir. C'est vrai que bien des personnes réagissent avec cynisme aux catastrophes naturelles et disent que si Dieu existe, il n'a pas beaucoup de puissance dans ces cas-là, car il laisse mourir des milliers de personnes. Il suffit de penser aux tsunamis, aux ouragans, aux tremblements de terre, aux glissements de terrain, aux inondations, enfin, etc. Mais cette façon de réagir place l'homme au centre de toute l'attention. Et Dieu, qui serait un agent au service du bien-être de l'homme, qui n'arrive pas à bien s'en sortir face à son Seigneur l'homme. En fait, l'homme se croit Dieu et juge les actions de celui qu'il considère comme son inférieur. Donc ceux qui réagissent avec cynisme, c'est ça que ça signifie. Mais est-ce une bonne façon de réagir que de douter de la puissance et de la bonté de Dieu lorsqu'une catastrophe arrive? Est-ce la bonne façon de prendre Dieu de haut et vouloir comprendre? Ou au moins qu'il nous donne une bonne raison pour ce qui se passe? Eh bien, Jésus a réagi comme Joël. Jésus a réagi comme Joël face à des catastrophes. Et même face à des actes barbares, d'ailleurs. Et nous allons écouter ce que Luc nous rapporte. Jésus a réagi comme Joël face à des catastrophes et même face à des actes barbares. Nous allons le voir dans Luc. Donc, vous pouvez garder un petit doigt dans Joël, comme ça vous le retrouvez. Hein, et tournez vos pages de Bible jusqu'à Luc 13. Luc 13. Et nous allons voir ensemble ce que ce texte nous raconte, qui va nous permettre de voir que Jésus réagit la même chose que Joël, en fait. Alors, je commence au verset 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent, donc vers Jésus, lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Une catastrophe. C'est horrible. Catastrophe créée par l'homme, ici, en plus. Des personnes viennent rapporter une catastrophe à Jésus, ici même de la barbarie, le meurtre des Galiléens commis par Pilate. Et on va continuer, non, pour voir comment Jésus réagit. Verset 2. Il, donc Jésus, leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?»« Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Or Jésus, on s'arrête ici, hein, dans ce texte, on continuera après, Jésus souligne que ce qui est arrivé à ces personnes qui ont été tuées est un signe, un avertissement qui doit faire réfléchir. Et pas en se demandant, mais pourquoi Dieu a laissé faire cela? Est-ce que Jésus dit cela? Non. Mais dans le fait que ceux qui rapportent l'histoire n'ont pas été tués eux-mêmes. Si ça avait été le jour du jugement, ceux qui ont rapporté l'histoire, aurait-il mérité d'être mis à mort? Jésus fait le lien avec le jour du jugement, qui est appelé le jour de l'Éternel dans Joël. Quand Jésus dit « vous périrez », il fait mention du jour de l'Éternel. Et Jésus continue, parce qu'il veut que ça soit clair pour les disciples, avec un autre exemple, et lui faire comprendre que cette manière de réfléchir n'est pas seulement liée à une catastrophe commise par l'homme, mais aussi par des catastrophes non directement commises par l'homme. Continuons dans Luc 13, verset 4. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Là, de même, Jésus fait réfléchir à ceux qui apprennent la nouvelle, non pas en se demandant pourquoi Dieu a laissé faire, mais plutôt en se demandant pourquoi ce n'est pas moi qui ai péri dans cette catastrophe. Suis-je meilleur que ceux qui sont morts? C'est la façon dont Jésus lui-même veut que nous réfléchissions, et Joël le fait. Donc voilà pourquoi je fais le parallèle. Hein? Donc Jésus fait réfléchir à ceux qui apprennent la nouvelle, non pas en se demandant pourquoi Dieu a laissé faire cela, hein, comme si on était des spectateurs en regardant qu'est-ce que Dieu fait, non? Mais plutôt en se demandant pourquoi ce n'est pas moi qui ai péri dans cette catastrophe? Suis-je meilleur que ceux qui sont morts? Et la réponse de Jésus est claire. Non! Nous ne sommes pas meilleurs. Et le message implicite qui suit directement, c'est « repentez-vous ». Hein, quand il dit « si vous ne vous repentez pas, vous mourrez de même », c'est dit « ben repentez-vous ». Et les messages explicites du jour du jugement où Dieu condamnera à la mort éternelle tous ceux qui ne se repentent pas. En fait, Joël transmet la parole de l'Éternel de façon identique à celle de Jésus. Il constate une catastrophe naturelle, celle des sauterelles, hein, ici, et qui d'ailleurs lui rappelle les sauterelles d'Égypte, qui faisaient partie du prototype, comme nous l'avons vu, du jour de l'Éternel. Les sauterelles lui rappellent aussi la malédiction que Dieu avait promise à son peuple s'il se détournait de lui. Dans Deutéronome 28, 15, qui introduit une de ces listes de malédictions, il est dit « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. » Alors, je vous fais grâce de toute la liste qui est dit dans Deutéronome 28, mais j'aimerais m'arrêter au verset 38 qui dit ceci. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. La catastrophe des sauterelles dont parle Joël n'est pas un hasard. C'est une conséquence de la désobéissance du peuple, c'est un jugement de Dieu. Sont-ils plus coupables que les autres? Non. C'est un avertissement. Et dans le livre de Joël, contrairement à d'autres prophètes, si vous lisez tout le livre, si vous l'avez fait, je vous encourage à le relire aussi après la prédication, vous verrez qu'il n'y a pas de mention de quel péché il faut se repentir. Ça, c'est étonnant. Les prophètes, généralement, ils décrivent les choses. Mais non, Joël ne le fait pas. Il donne un éclairage différent. Il part de la catastrophe pour faire penser au jour de l'Éternel, comme Jésus-Christ. Jésus n'a pas parlé des péchés dont les personnes devaient se repentir. Il a dit, vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez d'eux-mêmes. Et c'est la leçon du premier point que nous devons retenir. Lorsqu'une catastrophe arrive, cela doit nous faire penser au jour de l'Éternel. Les catastrophes sont des prototypes du jour de l'Éternel. Et une catastrophe ne devrait pas déclencher une réflexion sur comment Dieu a géré cette catastrophe, mais cela devrait être un signe de la catastrophe globale qui va atteindre ceux qui ne se repentent pas de leur péché. Nous ne devons pas mettre Dieu en jugement. C'est-à-dire, de quel droit jugerions-nous Dieu? Allez lire ce que Dieu répond à Job, si vous avez besoin de cela. Mais en fait, à penser au jugement de Dieu sur nous. Donc quand une catastrophe arrive, on ne doit pas penser qu'on doit juger Dieu, mais plutôt, quel est le jugement de Dieu sur nous? Et ce jugement-là, il est légitime. Et nous demander pourquoi cela ne nous a pas atteints. Est-ce que je suis moins coupable que ceux qui sont morts? Et la réponse négative, qui est une réponse honnête à cette question, nous amène à notre deuxième point, justement. La réaction face aux catastrophes. Là, on a parlé de la réflexion que cela doit amener. Une catastrophe naturelle doit nous faire penser au jour de l'Éternel. C'est exactement ce que Joël fait. C'est exactement ce que Jésus enseigne à ses disciples. C'est exactement ce que nous sommes appelés à vivre. Et maintenant, la réaction. Eh bien, Joël ne remet nulle part en question l'action du Dieu souverain. Il reconnaît simplement son œuvre. Il va même dire que les sauterelles, ça fait partie de son armée, enfin, etc. C'est des choses. Il reconnaît son œuvre. Et John Blanchard, dans son commentaire, dit, je trouve intéressant, voilà pourquoi je vous le transmets, « Quand les choses vont mal, nous avons tendance à nous focaliser sur les causes secondaires plutôt que de chercher plus loin et nous concentrer sur leur origine première. » Et il cite Lewis un peu plus loin en disant, « Dieu murmure à notre oreille dans nos plaisirs. Il parle à notre conscience, mais il crie au travers de nos souffrances. » Au travers des catastrophes, si vous voulez. C'est son mégaphone pour réveiller le monde qui est sourd, les catastrophes et les souffrances. Et regardez avec moi ce qu'il dit, donc ce que Joël dit en lien avec le fléau des sauterelles. Donc maintenant, on est de nouveau dans le livre de Joël. Je vous invite à revenir dans ce livre. Et on va aller voir plusieurs versets de ce livre qui nous montrent ce que Joël nous dit quand il y a cette catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 5 du chapitre 1. Réveillez-vous! Ivrogne et pleurez. Voilà la réaction. Verset 8. Plains-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'époux de sa jeunesse. Verset 13. Sacrificateur, revêtez-vous de sac et soyez dans le deuil. Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel. Verset 14, il continue. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens de tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et appelez l'Éternel au secours. C'est la réaction qu'on doit avoir. Et là, il parle de ces catastrophes naturelles, puis ensuite il parle du jour de l'Éternel, et il recommence, verset 12 du chapitre 2. Maintenant encore, roi de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Verset 15. Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formait une sainte assemblée, rassemblait les anciens, réunissait les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu. Et le verset 13 du chapitre 2 est central dans cette réflexion. Si vous cherchez un verset sur la repentance dans la Bible, ça c'est un bon choix. C'est un bon choix. Il est dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Si vous cherchez un verset sur la repentance, c'est un bon verset. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. La repentance, c'est pas juste une action extérieure, on déchire son vêtement. Le cœur est déchiré. C'est la seule fois d'ailleurs qu'on trouve cette expression dans toute la Bible ici. Et qui bien entendu manifeste une action intérieure qui va se manifester extérieurement évidemment. Mais c'est une action intérieure. Parce qu'à l'époque en fait, déchirer ses vêtements, enfin je sais pas si vous faites encore ça, ça se fait plus tellement. Pour les parents, ils aimeraient pas que les enfants fassent ça, d'habitude. Mais ça voulait dire, en fait, que l'on se lamentait de son péché. Hein, et que c'était une catastrophe, qu'on demandait l'intervention de Dieu pour être purifié. C'était ça, déchirer ses vêtements. Mais certains, comme on le voit d'ailleurs avec le grand prêtre face à Jésus, le faisaient sans que le cœur soit déchiré. Ils faisaient une petite pièce de théâtre. Là, je déchire tout pour vous montrer comme je suis spirituel. Non, je vais pas le faire. Je crois que vous avez compris. Ah, mais qu'est-il écrit dans 1 Samuel 16:7 ? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Au cœur. La vraie repentance ne se limite pas à demander pardon, une manifestation quelque part de déchirement de vêtements. Hein. Ça peut être par des paroles que l'on dit, je suis grand pécheur devant tout le monde. Hein. La vraie repentance indique un changement de mentalité. Your mind is changed. Votre mentalité est changée, votre façon de penser. La vraie repentance implique un changement de mentalité. Ce que je pensais être bon, le péché, je ne le pense plus comme bon. Je détourne. La vraie repentance, deuxièmement, implique un changement de cœur. Ce que j'aime, c'est ce que Dieu aime. Et troisièmement, la vraie repentance implique un changement de vie. Cela va se manifester. Jean-Baptiste disait à ses auditeurs, quand ils venaient pour se repentir, il leur disait quoi ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Celui qui dit « je me repens » et il ne voit rien du tout dans sa vie de changement, il ne s'est pas repenti. Il s'est juste déchiré les vêtements, mais il n'a pas déchiré le cœur. Voilà pourquoi ce texte de Joël 2,13 est tellement fort ici. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Alors face à une catastrophe, qui pourrait dire parmi nous, moi, je ne l'aurais pas mérité. En fait, je n'ai jamais commis de faute. Personne, pas même Dieu qui voit tout dans la moindre de mes pensées, pourrait me faire un seul reproche. Non, vraiment, cet ouragan qui dévaste tout, en fait, il n'y a aucune raison que moi, je le mérite et que tout soit saccagé. Non, moi, je le mérite. Si quelqu'un peut dire cela, c'est qu'il ne sait pas ce que signifie le jour de l'Éternel. Ce jour de jugement où tout le monde, sans exception, sera conscient qu'il mérite la mort. Le jour de l'Éternel, tous ceux qui autour de vous maintenant rigolent, seront conscients qu'ils méritent la mort éternelle. Mais c'est pas pour ça qu'ils chercheront à se détourner. Mais ils seront conscients. Et tout le monde, sans exception, devra plier le genou devant le Créateur de l'univers, qui est bafoué, injurié, outragé, trompé, moqué par chaque péché que nous commettons. Mais celui qui est conscient de son péché avant ce jour du jugement, convaincu par le Saint-Esprit, ne fait qu'une seule chose lorsqu'il apprend une catastrophe. Il se repent devant Dieu parce qu'il reconnaît son péché. Il connaît Dieu qui est compatissant. Vous avez vu dans le texte de Joël, c'est juste magnifique. Hein. Il vous dit c'est catastrophe, il parle du jour de l'Éternel. Il dit repens-toi et regardez avec moi au verset 13 du chapitre 2. Donc je l'ai pas lu mais je vais le lire maintenant. Hein. Il dit mais revenez à l'Éternel votre Dieu car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. Et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regrets et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Oui, nous avons une ferme espérance, une ferme assurance, une garantie, une promesse. Dieu répondra. Jésus, qui est Dieu, est venu accomplir la rédemption, le paiement de la dette de nos péchés. Et il nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Or, si le premier point que nous avons vu nous aide face à une catastrophe à déclencher une réflexion, donc dès que vous verrez une catastrophe maintenant, vous devez penser au jour de l'Éternel. Eh bien, ce deuxième point nous pousse à réagir aux catastrophes par la repentance. Car nous ne méritons pas de ne pas avoir été touchés par cette catastrophe. Et il y en a pas mal des catastrophes actuellement. Donc ça devrait être pour nous des aides extraordinaires de nous repentir pas mal, de revenir toujours vers l'Éternel. Et pourquoi nous nous repentons? Parce que nous avons l'assurance d'une restauration promise. Et c'est notre troisième point, la restauration promise. Je vais relire avec vous le chapitre 3 ou 2, versets 28 à 32. Donc le prophète parle de quelque chose qui ne s'est pas passé à son époque, mais que nous vivons actuellement. Il ne l'avait pas vécu, lui, hein. Il l'annonçait. Et Pierre, à la Pentecôte, a indiqué que cette prophétie s'accomplissait. Et j'aimerais lire ce texte avec vous, et ensuite nous allons faire briller quelques facettes de ce diamant. C'est vraiment un diamant dans la parole de Dieu ici, ce texte de Joël 3. Alors lisons ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion, et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appelle seront parmi les survivants. Alors j'aimerais souligner quelques éléments. L'Esprit répandu sur toute chair. Je ne suis pas certain que nous nous rendons vraiment compte de ce que cela signifie. Du temps de Joël, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu agissait, déjà, c'est vrai, mais n'habitait pas dans tous les croyants. La nouvelle de l'Esprit Saint sur toute chair est absolument fabuleuse et une promesse extraordinaire pour chaque croyant actuel. Il ne vivait pas ça du temps de Joël. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on doit saisir petit à petit. La nouvelle de l'Esprit sur toute chair est absolument fabuleuse, une promesse extraordinaire pour chaque croyant. Il est parlé de fils, de filles, d'anciens, de jeunes gens, de serviteurs. Eh bien, cette façon de parler indique qu'il n'y a pas de genre, que ce soit homme ou femme, pas d'âge, que ce soit les anciens ou les jeunes, ou même pas de couche sociale, même les serviteurs. Le critère, c'est que l'Esprit est répandu. Chaque chrétien, jeune, âgé, homme, femme, cadre ou ouvrier, chaque chrétien est habité par l'Esprit de Dieu. Chaque chrétien est habité par l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose aussi, mais c'est extraordinaire. Et il dit, ensuite, ils prophétiseront, ils auront des songes, ils auront des visions. Alors, du temps de Joël, il y avait une référence concernant la prophétie. Vous savez, qui était la référence pour la prophétie du temps de Joël? Ça devrait aussi encore l'être pour nous, d'ailleurs. C'était Moïse. Moïse est la référence de la prophétie, et personne après lui n'a eu le dialogue avec Dieu face à face, comme lui l'a eu, personne. Cela est dit dans Deutéronome 34:10 où il est dit « Il ne s'est plus levé en Israël de prophètes comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. » Et Dieu a clairement dit d'ailleurs à Aaron et Myriam qui s'étaient rebellés face au fait que c'est Moïse qui conduisait. Hein. L'Éternel leur explique comment il répand son esprit quelque part. Hein, il parle. Il leur dit dans Nombre 12:6, écoutez bien les termes utilisés. « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. » Mais Joël utilise exactement les mêmes termes ici, pour parler de l'esprit répandu. C'est l'image qu'il avait de celui en qui l'esprit est. Mais Joël n'a pas vécu la Pentecôte. Il n'a pas vu que lorsque l'Esprit était répandu à la Pentecôte, les gens auraient la conviction de péché, de justice et de jugement, et qu'ils étaient conduits à la repentance, et pas tomber en transe et avoir des songes et des visions. Quand Pierre a parlé à la Pentecôte, les gens ont dit « Que faut-il que nous fassions ? Repentez-vous et croyez. » 3000 l'ont fait. Ils n'ont pas commencé à avoir des songes et des visions à la Pentecôte. Joël dit ce qu'il connaît pour faire comprendre au peuple qu'il écoute à son époque, parce que Joël il était à son époque, il disait à son époque, que Dieu répandrait son esprit. Puis eux, la référence de ceux qui ont l'esprit, c'était les prophètes. Ils seront tous comme des prophètes. Ils auront l'esprit de Dieu sur eux. Je prends un autre exemple pour qu'on comprenne un peu l'image. Si Joël avait voulu parler de la pureté, il aurait pu dire que ce sont des personnes hein, dans le futur là qui sont pures, qui n'auront jamais mangé ni touché de porc. Des purs. Même si aujourd'hui, on peut manger du porc tout en restant pur. C'est une référence à l'époque de Joël pour comprendre la pureté. Comme pour les prophéties, les songes, les visions sont les références que l'Esprit est répandu. Et nous arrivons au cœur de l'évangile, quelque part, ici, dans le livre de Joël, où il est dit, l'évangile que nous trouvons dans Joël, c'est quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré ou sauvé. Et si vous ne devez retenir que deux paroles dans le livre de Joël aujourd'hui, c'est Joël 2:13, où il a dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. » Et Joël 3:5 ou 2:32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » C'est l'Évangile. Et là, une fois encore, nous ne mesurons pas forcément la force du message au temps de Joël. Hein, rappelez-vous que les Israélites pensaient qu'ils étaient les seuls au monde à pouvoir être sauvés au jour de l'Éternel. C'est nous, son peuple, qu'on peut être sauvés. Et voici que Joël dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel ». Cela veut dire qui que ce soit. Chaque homme, chaque femme est concerné, pas une seule exception. Voilà pourquoi vous et moi pouvons être sauvés. À cause de ce message-là, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Et que veut dire invoquer le nom de l'Éternel ? Eh bien, invoquer le nom éternel, ce n'est pas, comme certains le pensent, simplement dire l'éternel, ou dire Jésus, Jésus, ou etc. Non. Répéter à l'infini, quelque part, puis dire, oh là, c'est comme ça qu'en fait, il va agir, il va intervenir. Non. Comme un talisman, quelque part. J'invoque son nom, et voilà. Non. Invoquer le nom de l'éternel, c'est faire appel à sa nature même. Quand on parle du nom de quelqu'un, ou particulièrement du nom de Dieu, on fait, en fait, appel à sa nature même. Ce n'est pas juste dire un nom, c'est en fait tout ce que Dieu est, c'est lui parler sur la base de qui il est dans la foi, et qu'il agira selon sa nature qui, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est ça invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel, c'est croire qu'il va agir selon sa nature. Et que sera la délivrance ? La délivrance du jugement final. Le jour de l'Éternel n'est plus à redouter. Car alors Jésus-Christ, au jour de l'Éternel, que va-t-il faire ? Il va se lever et il va manifester notre salut. Il va le manifester pleinement par la délivrance finale. Ah, moi je me réjouis. C'est extraordinaire. Quand Jésus se lèvera à ce jour de l'Éternel pour manifester pleinement ce salut que nous goûtons déjà maintenant. Donc Dieu, dans sa grâce, nous accorde déjà des délivrances, c'est vrai, pendant notre vie. Il le fait souvent. Il permet des reconstructions, des guérisons, le rétablissement. Il permet aussi parfois de longues épreuves où ses enfants manifestent toutes les grâces qu'il nous donne pour supporter et manifester la bienveillance de Dieu autour de nous. Comme nous sommes encore touchés par le péché et dans un monde déchu, la destruction et les avertissements continuent jusqu'à la destruction finale. Voilà pourquoi il y aura encore des catastrophes jusqu'au jour de l'Éternel. Et la délivrance finale présentée par Joël contient ces quatre éléments ici, que je vais dire rapidement. Le premier, et là je vous invite à méditer ça cet après-midi, le premier élément de la délivrance finale, c'est la présence même de l'Éternel. Être dans la présence de Dieu, c'est le bonheur parfait. Deuxièmement, le retour de l'exil. Dans un sens, nous sommes un peu en exil sur cette terre, dispersés parmi les nations. Et nous serons rassemblés dans la Jérusalem céleste. Donc la présence même de l'Éternel, la deuxième chose, le retour de l'exil, la troisième chose, le jugement des nations hostiles au peuple de Dieu qui détestent Jésus-Christ quelque part. Le mal sera éradiqué. C'est extraordinaire. On a de la peine des fois dans notre monde un peu sentimentaliste de dire c'est bien d'éradiquer le mal. Mais franchement, quand le mal n'est plus là, c'est juste extraordinaire. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est la délivrance. Et dernier élément, le rétablissement, et là c'est intéressant dans Joël, de tout ce que les sauterelles ont mangé. Vous allez regarder au chapitre 1, tout ce que les sauterelles ont mangé, et vous regardez au chapitre 4, en fait, tout ce que ces sauterelles ont mangé, Dieu le redonne. C'est le rétablissement. Et donc ça c'est une grâce. Si on perd beaucoup de choses dans nos vies, ici-bas, si on a même des aptitudes qu'on n'a pas, les sauterelles l'ont mangé, hein, le péché, tout ça, nous le retrouverons à la délivrance finale, parce que Dieu nous donnera la perfection. En conclusion, j'aimerais que nous nous rappelions que Joël, avec ses sauterelles et le jour de l'Éternel, nous indique comment nous devons réagir face à une catastrophe. Cela devrait déclencher, en fait, premièrement, la réflexion concernant le jour de l'Éternel. Une catastrophe devrait toujours nous faire penser au jour de l'Éternel. Et deuxièmement, notre réaction devrait être la repentance en comptant sur la restauration que Dieu peut déjà produire, c'est vrai en partie ici-bas, mais qui sera de façon certaine et totalement accomplie dans son royaume éternel. Donc deux phrases de Joël que l'on peut retenir. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ce matin devant ta parole, en nous réjouissant que tu ne nous laisses pas dans une situation où nous devons nous poser la question, mais comment réagir face aux catastrophes qui peuvent arriver? Tu nous indiques un chemin. Merci pour ce prophète Joël que nous n'avons pu que aborder, et c'est vrai, un petit peu. Nous aurions besoin de développer encore plus ces éléments, mais permets Seigneur que ce que nous avons vu soit déjà pour nous un encouragement à tourner nos regards vers toi. Et non pas à les détourner de toi pour devenir tes juges ou devenir des railleurs ou des moqueurs ou simplement des gens indifférents. Seigneur, nous te demandons pardon parce que trop souvent nous avons vécu dans l'indifférence face aux catastrophes autour de nous. J'aimerais te prier de nous aider à nous rappeler que ces catastrophes nous rappellent le jour de l'Éternel. Ce jour redoutable, mais ce jour glorieux aussi. Ce jour du jugement. Et ce jour de libération, ce jour qui annonce que tu vas appliquer ta loi, qui est bonne. Oh, j'aimerais, Seigneur, te prier vraiment que nous puissions être saisis par ta grâce. Merci pour ton esprit qui est répandu. Merci parce que tu es celui qui nous guide, qui nous garde. Et j'aimerais te prier que tu puisses permettre que nous ne soyons pas perturbés par différentes images de l'Ancien Testament, mais que nous puissions être encouragés que tu es celui qui donne ton esprit à tous les croyants. Il n'y a pas d'exception. Romains 8 nous le dit tellement clairement. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions en être fortifiés, encouragés, renouvelés et bénis. Seigneur, merci pour ces paroles qui sont vraies, qui viennent de toi, qui disent que quiconque t'invoquera sera délivré. Quelle grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.